Il est 7h25. Notre invité ce matin, le chef du Bloc québécois qui est en studio, Yves-François Blanchet. Monsieur Blanchet, bonjour.
Bien le bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, qu'est-ce qui s'est passé en Acadie? Première question, vous deviez vous y rendre, ça a été annulé. Les gens d'Acadie disent qu'ils n'ont pas besoin du Bloc pour défendre nos intérêts. Qu'est-ce qui est arrivé?
J'ai un considérable malaise parce que ma relation avec le président était passablement amicale et cette rencontre-là était bien convenue. On a même des preuves, là, c'est eux autres qui ont annulé la rencontre, mais l'enjeu n'est pas qui c'est qui a annulé la rencontre. L'enjeu, c'est de vraisemblables pressions exercées sur le conseil d'administration dans une région qui est rouge mur à mur, évidemment. Jusque-là, je peux comprendre, mais quand ça devient ou quand ça prend la forme d'un communiqué, on n'a pas besoin du Bloc québécois, puis rien. Je rappellerai aux journalistes qu'il y a eu une espèce de mini-scandale au Nouveau-Brunswick il y a quelques mois, quand un courriel envoyé par le président, M. Doucet, avait été rendu public et il disait à ces gens, nous avons maintenant un allié et un porte-parole à la Chambre des communes, c'est le Bloc québécois, et nous avons des perspectives stratégiques ensemble. C'est son propre courriel. Fait qu'aller dire après qu'il n'y a pas besoin du Bloc québécois et qu'il n'y a jamais eu de conversation avec le Bloc québécois, c'est singulier. C'est plus déplorable qu'autre chose. Je pense qu'on va reconstruire les ponts avec tout le monde parce qu'il est exact que les gens qui ont le plus défendu...
Mais avez-vous l'intention de porter à la Chambre des communes des dossiers qui concernent les Acadiens?
Oui, parce que c'est pas un enjeu des institutions, des Acadiens ou des francophones au Québec, c'est un enjeu de la langue française et des individus, des gens, des personnes qui vivent et qui veulent vivre en français ailleurs. On a un devoir de solidarité et d'amitié qui était existant sous René Lévesque, qui était existant sous Lucien Bouchard, puis qui est encore existant. Ça devra toujours être là, malgré des moments où on peut avoir des mésententes ou être l'objet de pressions politiques.
OK. Sondage ce matin qui montre que l'après-débat en anglais a provoqué, d'abord, on l'a vu dans les intentions de vote, une hausse pour le Bloc. Puis là, on voit la différence entre ce qui se passe au Québec, ce qui est perçu au Québec, puis ce qui est perçu dans le reste du Canada. Grosso modo, 60 % des Québécois disent qu'ils sont... Il n'y a pas de discrimination là, quand on parle de la loi sur la langue, sur la laïcité. Canada, c'est pas la même chose. Est-ce que pour vous, ça n'a pas été le cadeau inespéré là, qui vous a permis de prendre la vague puis de grimper? Parti sur...
Il y a une partie de moi qui dit oui, c'est comme un cadeau, c'est inespéré. Mais l'autre partie qui dit non, c'est juste un révélateur. C'est pas une nouvelle situation, c'est pas une nouvelle perception que le Canada a du Québec. On fait juste le voir davantage. Il a été normal dans la vision canadienne de l'animatrice ou de l'organisation ou de la production de ce débat-là de commencer par ce qui fait figure d'agression grave contre la culture ou les valeurs québécoises. Et pour eux autres, c'était normal. On le voit plus, on l'entend plus. L'objectif, ou comme mon objectif au débat, et j'ai pas eu besoin de forcer fort fort, ça s'est pratiquement fait tout seul, c'était de démontrer la différence et le double langage de la politique canadienne quand on parle en français au Québec, quand on parle en anglais au Canada. Et si on s'est posé la question quant à ce qu'allait être la question de l'urne, au moins au Québec, on commence à la connaître. C'est le droit d'être Québécois.
Mais après ce vote-là, il va y avoir un gouvernement, vous allez être là, à la Chambre des communes. C'est pas toujours un peu ça. Le Québec s'embrase, le Québec est en feu et flamme, puis après ça, pouf, ça s'éteint.
Mais le Québec a peut-être davantage que d'autres endroits au Canada un côté latin, un côté chaud, un côté bouillant. C'est notre tempérament. On est des gens passionnés. On le vit dans le quotidien, puis on est fait comme ça. Et ça nous distingue passablement peut-être de l'ensemble du continent nord-américain qui est davantage anglo-saxon. Mais dans le cas présent où, si on prenait des exemples historiques, des fois ces braises-là, elles restent présentes et elles se manifestent lorsque l'occasion se présente aussi.
Mais en même temps, puis je pense à des auditeurs nombreux qui m'ont écrit en disant c'est pas une question de racisme. Le mot était mal choisi. Mais quand on restreint certains droits, quand on met dans les lois des clauses dérogatoires nonobstant, il y a un fond de discrimination. On discrimine tel type de personne pour telle raison. C'est quand même vrai sur le fond.
Il y a deux choses. Un,
ça veut pas dire que c'est pas légitime.
On enlèverait un droit si on cautionnait le principe de ce droit tel qu'il existe dans la Charte canadienne des droits et libertés. C'est pas la Bible, la Charte canadienne des droits et libertés. Elle a été conçue et rédigée dans le but d'être une restriction aux valeurs, aux perspectives linguistiques, surtout à l'époque pour le Québec. Donc, c'est pas une définition très philosophique du droit, c'est une définition très orientée du droit par la Charte canadienne. Le deuxième élément, on dit seulement que des gens qui exercent un pouvoir, une autorité sur d'autres citoyens ne peuvent pas manifester leurs préférences religieuses dans le cadre de leur travail. C'est comme si moi, je travaillais à la Société de l'assurance automobile puis j'arrivais avec un gros T-shirt marqué « Votez Bloc québécois », on me dirait « t'as pas le droit ». Et l'autre principal argument, c'est comme si la religion était une valeur progressiste. Il n'existe aucune religion qui ne soit pas discriminatoire à l'endroit des femmes. Point final. On n'a pas affaire à laisser entrer ce type d'influence dans les décisions de l'État. L'État doit être laïque parce que c'est la seule façon d'assurer l'égalité des femmes au sein des institutions publiques. Alors, quand c'est des gens en autorité, c'est d'autant plus important.
La légitimité n'est pas en cause, mais le fait que des gens se sentent, parce qu'ils sont religieux, puis on peut être en désaccord avec leur religion, il y a des gens pour qui la religion est importante, pour qui non seulement c'est la religion, c'est la culture aussi, ça devient des symboles autres que religieux. Il y a quand même une certaine forme de discrimination.
Le seul élément auquel on leur demande un certain nombre d'heures par jour de renoncer, c'est de porter des signes religieux dans l'exercice de la fonction, si c'est une fonction en autorité. Ça ne change pas la liberté de conscience. La religion est un choix personnel, c'est quelque chose qu'on vit sur une base personnelle, plutôt privée, quoique collective, dans l'exercice du culte, dans un temple, dans un lieu de culte. Mais on leur dit pas d'abandonner leur religion, de renier leur religion, rien du genre. L'État québécois dit, si vous exercez une autorité, une contrainte, un poids, une pression, vous pouvez obliger quelqu'un à faire ceci ou cela, et que vous le faites en portant un signe religieux, vous ne respectez pas le principe de la neutralité de l'État. Dans le contexte actuel des dernières années, et Dieu sait qu'on en parle depuis un certain nombre d'années, okay, c'est de plus en plus évident que la contrainte est toute petite par rapport à l'enjeu.
Autre dossier important, sur le dossier du troisième lien, mais sur les questions environnementales de façon plus large. Vous dites, le troisième lien, je ne me prononce pas parce que c'est un dossier québécois, ça relève des compétences de Québec, point à la ligne. Mais en même temps, les Québécois ont envie de savoir ce que Yves-François Blanchet pense sur ces... C'est pas banal, quand même, le troisième lien. Il y a des sommes fédérales, ultimement, qui pourraient être investies.
Je me suis tiré le coup, quand même, bien davantage que je l'aurais fait normalement là-dessus. J'ai dit que ça relève de Québec et que moi, je suis convaincu que ce projet-là, qui n'est pas du tout à sa version finale, peut avoir des vertus environnementales. Parce que je m'attarde assez peu au coût du projet à ça, parce que je pense que toutes les régions du Québec ont droit d'avoir des grands projets d'infrastructure, puis que le lien entre deux centres-villes n'est jamais une mauvaise chose. Et le gouvernement est peut-être en train, puis ça, on verra quand on l'aura final, de démontrer qu'il est capable d'avoir une grande sensibilité environnementale à Québec quand on est sur le bord de se faire annoncer que l'État québécois renonce définitivement à toute forme de soutien ou de participation à des projets dans les hydrocarbures, que ce soit le gaz ou le pétrole. C'est une extraordinairement bonne nouvelle.
Mais votre gouvernement, à l'époque, est en train d'explorer la possibilité encore, ça fait pas si longtemps.
J'aime la formulation, explorer la possibilité. On n'était pas rendu là, puis moi, je me levais pas le matin pour aimer ce projet-là. Là, ma job, c'était...
Vous pas d'accord avec Mme Marois là-dessus? Là.
Je tripais pas, mettons, mais c'était des décisions qui se prenaient bien au-dessus de moi, puis j'étais un peu... Okay. J'étais le tannant dans l'affaire. Là. Il n'aimait pas trop ça, mais c'est normal. Ça. J'en ai reparlé plusieurs fois avec Mme Marois ensuite. C'était normal, c'était ça ma job, c'était ça mes convictions, mais je pouvais pas faire virer un gouvernement de bord. Je veux dire, j'aurais juste pu être ministre le lendemain matin.
Il y a des candidats chez vous qui se sont exprimés contre le troisième lien, de façon publique. Ouais, avant d'être candidat, mais ça veut dire qu'ils ont des opinions.
Oui, mais tout le monde a des opinions personnelles.
Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas pourquoi vous enfermez dans cette logique, c'est Québec, m'en mêle pas?
Parce que la job du Bloc québécois à Ottawa, c'est de préserver les prérogatives de l'Assemblée nationale du Québec ou de l'État québécois.
Mais allez-vous défendre peu importe ce que Québec vous demande?
Je n'ai pas, non, mais l'Assemblée nationale, plutôt. C'est toute la nuance est là. Alors, il y a des gens au Bloc québécois qui, à titre personnel, ont des opinions sur plein... J'ai plein d'opinions sur plein d'affaires que j'apprends à chaque jour, que je suis mieux de pas tout dire ce que je pense, parce que c'est pas ça ma job. C'est pas ça le mandat que les Québécois m'ont donné quand ils m'ont envoyé à Ottawa. Maintenant, quand tu rentres dans la structure du parti, tu dis, ben oui, j'ai déjà exprimé mon opinion personnelle, mais là, j'ai adhéré à un autre format d'engagement social, d'engagement politique, qui fait que j'ai une réserve. Et tout le monde au Bloc, tout le monde, dans leur conviction profonde, reconnaissent que c'est une juridiction de Québec. Et tu dis pas, je vais défendre le Québec quand je suis d'accord, puis quand je serai pas d'accord avec le gouvernement qui est là, je vais aller contre le Québec. C'est pas ça, le Bloc québécois.
Oui, mais le gouvernement n'est pas le Québec, nécessairement. Vous me parlez de l'Assemblée nationale.
Il est issu de l'Assemblée nationale.
Oui, mais il y a un changement de gouvernement demain, puis le gouvernement qui est en place est contre le troisième lien. Allez-vous défendre l'opposition au troisième lien?
Je vais défendre le droit du nouveau gouvernement du Québec d'aller à l'encontre du troisième lien ou de faire complètement autre chose.
OK, mais ce que vous me dites, dans le fond, peu importe qui est au pouvoir au Québec, vous allez toujours défendre la position du Québec.
Non, je vais défendre la juridiction du Québec. Et la différence, elle est importante. La juridiction amène ou protège une décision qui est prise par l'État québécois.
Est-ce que je comprends que le caucus n'aura pas à débattre de cette question-là?
Mais le caucus n'a pas à débattre du fait qu'on respecte les juridictions du Québec. S'il fallait que le Bloc québécois ait un débat à chaque fois qu'il faut se demander si on respecte les juridictions du Québec, on n'a pas fini.
Mais si un débat sur l'environnement, un débat au sein du caucus, est-ce qu'un tunnel, ça s'inscrit dans une logique verte?
Ah, ben là, personne ne vous a dit qu'il n'y avait pas eu de conversation à ce sujet-là.
Mais là, j'ai compris que ça ne serait pas débattu, là.
Vous avez lu un titre de journal.
Non, j'ai lu l'article.
Mais l'article ne disait pas exactement quel titre. Si on a vu ça, tout l'ensemble de l'histoire du troisième lien. Et je me rappelle, je pense qu'on en a déjà parlé, vous et moi. Personne ne m'a sorti une citation de ma part où je disais que j'appuyais le troisième lien. Mais toutes les
Mais vous êtes assez habile pour dire, à dire à Québec, je l'appuie sans le dire formellement, mais en disant qu'il y a moyen de bonifier le projet.
Ben moi, si Paul Arcand me dit que je suis habile, je le prends comme un compliment.
Non, non, mais sérieusement, là, c'est habile quand même de dire, je dis pas formellement je l'appuie, mais en même temps, il y a moyen de le rendre vert. Avouez que ça revient pas mal à la même chose.
Ça. C'est pas, non, non, c'est pas de l'appuyer, c'est de dire qu'il y a moyen de le rendre
mais
vert.
Mais pourquoi vous n'êtes pas capable de me dire, je suis pour ou contre ce projet-là, même sur le principe d'un tunnel?
Ah non, je ne suis pas contre le principe du tunnel. Si ce tunnel-là, mettons ça à l'extrême, on se gâte. C'est juste du transport collectif. Il y a des gens qui seraient contre pareil, parce qu'ils sont contre le fait qu'on crée des liens entre des centres-villes, ça favoriserait l'étalement. Moi, je dis, les gens qui sont à Lévis ont le droit de vivre, ils ont le droit d'exister. Si c'était totalement du transport collectif, on serait dans une autre dynamique complètement. La version finale de ce projet-là, qui a déjà beaucoup évolué, n'est pas sur la table. C'est pas fini. Okay. Les consultations sont pas faites, les évaluations environnementales sont pas faites, l'acceptabilité sociale n'est pas complètement acquise par l'État québécois. C'est sa responsabilité. Moi, je veux forcer Ottawa à mettre, et c'est ça la demande de l'État québécois et de l'Assemblée nationale d'ailleurs, prend tout l'argent des infrastructures, mais là, dans une enveloppe, envoie-la à Québec. C'est pas ta juridiction, c'est okay. À Québec de faire ses choix avec les villes.
Quelle est l'utilité et l'efficacité du Bloc face à un gouvernement majoritaire?
L'histoire a démontré que le Bloc a toujours été capable de se positionner. Il y a des gains importants qui ont été faits, même quand c'était majoritaire. Mais je ne vous cacherai pas l'évidence. Le portrait qui se dessine présentement est peut-être le meilleur pour le Québec. C'est lorsqu'on dit, OK, on ne veut pas de gouvernement majoritaire, quelle que soit la préférence d'un individu ou de l'autre. Moi, j'aime mieux libéral, moi, j'aime mieux conservateur, mais si les gens ne veulent pas que ce soit majoritaire parce que personne n'a démontré mériter une majorité au sein du prochain Parlement, la meilleure protection est au Québec, la seule qui existe pour défendre les intérêts du Québec, promouvoir les intérêts du Québec, être l'espèce de chien de garde de ce qu'on voit se passer, c'est clairement le Bloc québécois. Il n'y en a pas d'autre. On a dit du Bloc québécois qui avait coûté la majorité à Justin Trudeau la dernière fois. Je pense que la démonstration est assez claire. La meilleure manière est de mettre de l'avant ce qui est bon pour le Québec et d'éviter une majorité, c'est de voter pour le Bloc québécois. Mais je suis pas un tenant du vote stratégique. Je dis toujours aux gens, votez avec votre cœur, votez avec votre conscience, votez avec vos convictions, puis on verra ce que ça donnera après. Mais mathématiquement, on peut pas nier que l'évitement de la majorité s'appelle Bloc québécois.
Mais en même temps, vous allez devoir, avec c'est un gouvernement minoritaire, jouer avec des dossiers à la pièce. C'est-à-dire qu'on va vous solliciter pour essayer de faire passer des projets de loi. On peut penser aux armes à feu, on peut penser à des questions environnementales. Bref, ça va être à la pièce.
C'est peu
importe
à la
qui
pièce.
Est le PM. Là.
Le Bloc québécois, en tout cas depuis que je suis là, c'est toujours comme ça. Puis je répète toujours la même affaire, puis je vais le répéter encore. Si c'est bon pour le Québec, on va être pour. Si c'est mauvais pour le Québec, on va être contre. Et en général, on réussit à améliorer les choses avant de les voter, de les adopter. Ça a été vrai pour la radiodiffusion, ça a été vrai pour l'aluminium, ça a été vrai pour les 50 semaines en cas de maladie grave, ça a été vrai pour les fonds de retraite protégés. Il y a plein de dossiers sur lesquels on a obtenu des gains en discutant, en négociant. Ça donne beaucoup de leviers au Québec.
Avez-vous parlé à O'Toole en privé, c'est-tu vrai? Pas vrai, cette rencontre?
J'en ai parlé à O'Toole en privé.
Jamais après le
la
débat.
La seule affaire qu'on a vue, on s'est croisé sur le plateau, puis je dis, ah, ça a l'air que tu as besoin d'un chien de garde, ça va être moi. Et ça, il y avait un petit problème, c'est qu'on était en conversation privée après le débat, sauf que j'ai encore mon micro sur moi, et les deux personnes à qui j'ai parlé, je me suis fait poser des questions sur ce que je leur avais dit. En termes de déontologie, on a peut-être un petit problème, c'est pas le seul qu'il y a eu au débat anglais.
Avec lequel des deux, Trudeau, O'Toole, vous êtes les plus faciles à travailler?
Sur les enjeux de juridiction et d'identité, je pense que M. O'Toole est davantage parlable que M. Trudeau. Sur les enjeux de valeur sociale, allons-y sur l'aide médicale à mourir, par exemple, ou le contrôle des armes à feu ou l'avortement, c'est un peu plus facile avec les libéraux qu'avec les conservateurs. Okay. Donc, il n'y a pas... Encore une fois, à la pièce, il y a des fois où ce sera plus facile avec les uns ou avec les autres, mais nous, notre ADN, c'est d'imposer, de porter, de protéger ce que sont les valeurs ou les intérêts des Québécois dans ce contexte-là.
En terminant, cette campagne-là a démontré non seulement des divisions, mais a démontré que la haine pouvait prendre beaucoup de place, puis l'agressivité. Ça tourne beaucoup autour de la pandémie, de la vaccination obligatoire. Vous n'avez pas abordé ça. Trudeau l'a fait en disant qu'il voulait imposer la vaccination aux employés de l'État. C'est quoi votre position sur le passeport, sur la vaccination? Vous pensez quoi?
Je vais essayer de vous décliner ça. D'abord, la vaccination des employés de l'État, sa propre responsable de l'ensemble de l'appareil des fonctionnaires avait dit à M. Trudeau, faites pas ça. Il y en a qui peuvent pas, il y en a qui veulent pas, puis on peut faire des tests. Ça n'a pas été long que M. Trudeau a complètement abandonné ça. Il a parlé de vaccination obligatoire dans les transports. Ce qui, sur le principe, si c'est interprovincial, est tout à fait acceptable. J'en ai un peu contre le mot passeport vaccinal. Si on l'utilise dans le sens passeport, passer les frontières, je suis totalement d'accord avec ça, ça va s'installer à l'échelle internationale. Il faut protéger la santé de notre monde. Tu veux rentrer au Québec ou au Canada, prouve que tu n'es pas une menace pour la santé publique. L'utilisation de ça à l'intérieur du territoire, c'est un enjeu avec lequel le gouvernement du Québec et la santé publique du Québec essaient de composer au mieux. Mais progressivement, il faut que les gens accepte le fait que la seule façon qu'on connaisse maintenant de se protéger, le moins pire des moyens, si jamais on veut apprivoiser des gens qui sont plus hostiles, pour protéger du monde, protéger les plus vulnérables, ça reste à l'heure actuelle la vaccination.
Mais
et
sur
si
le passeport,
c'est nécessaire
là,
d'être plus contraignant, je pense qu'éventuellement il faudra.
Mais vous n'êtes pas confortable avec le passeport pour aller au restaurant, là, ce que je comprends, ce que vous me dites.
J'avais des appréhensions, je le vis à l'heure actuelle parce que Dieu sait que je déjeune pas souvent à la maison. Je sors mon petit machin, ça va devenir tout à fait normal et banalisé. Et si c'est un moyen qui nous permet d'éviter la maladie et éventuellement de sauver des vies, je demande humblement à tout le monde d'avoir le sens des responsabilités, d'être ouvert à la demande de la santé publique du Québec.
Une dernière question. Quand on vous dit que vous êtes arrogant, baveux, autoritaire, vous prenez ça comment? Un compliment ou vous êtes fâché?
J'ai pris la décision au milieu de la campagne de prendre le risque du franc-parler et de prendre le risque de me faire parfois traiter de baveux, mais de ne pas faire la langue de bois, de ne pas apprendre mes réponses par cœur, de ne pas me laisser formater. Je ne prépare pas les rencontres, je prépare pas les entrevues comme celle de ce matin. Je dis, M. Arcan va me poser une question, je vais y répondre à la vérité telle que je la vis, telle que je la perçois maintenant. C'est sûr que parfois, en point de presse, le ton peut lever un petit peu, puis il m'arrive rarement d'avoir un peu de tempérament, mais j'aime la radio parce que c'est un média qui te permet d'être calme, posé, développer tes idées et dire ce que tu penses être la vérité. Mais j'aime mieux le franc-parler qu'apprendre des réponses par cœur.
M. Blanchet, merci d'être venu ce matin.
Un grand honneur.
Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, il est 7h43.